Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui Flavie, ça va la pêche, la patate.
La pêche.
Thomas, ça va, la patate?
Ouais, je dirais même la frite.
La frite. Et puis on a un espèce de détracteur qui est venu nous voir, une espèce de Manu, Manu alias Paradoxe. Ça va Manu, la pêche?
Très bien.
C'est plusieurs fois qu'on t'entend sur le podcast de la cellule. Tu viens à nouveau et cette fois-ci tu viens nous faire la guerre, c'est ça? Enfin, tu viens me faire la guerre, je crois.
Ouais, dire pas d'accord.
Alors, raconte-moi tout, qu'est-ce qui se passe?
Il y a quelques semaines, tu as publié sur un site qui s'appelle Petit Peuple un article sur les règles de jeu.
Ouais.
Et dedans, tu as évoqué les jeux narratifs.
Ouais.
Comme étant des jeux de rôle parmi d'autres.
D'accord.
Et je suis pas d'accord.
Alors, on peut peut-être, pour nos auditeurs, expliquer rapidement. Donc, effectivement, il y a ça.
Tu as parlé de jeux narratifs?
Je sais plus. Je sais plus. Non, alors, d'abord, c'était pas un article là-dessus, à la base. Faut être clair. C'est un article sur Petit Peuple, dont le but était de distinguer ce qu'on appelle le système de jeu et le système de résolution. Ma thèse dans cet article, c'était de dire que, souvent, les rôlistes confondent système de jeu et système de résolution. C'était ça la thèse de l'article.
Donc toujours dans l'univers du jeu de rôle?
Oui, bien sûr. J'ai parlé uniquement de jeu de rôle. Puis ensuite, j'en ai conclu autre chose. J'ai dit, bah voilà, en fait, cette confusion peut expliquer d'une certaine façon l'hermétisme du jeu de rôle. Parce que comme on n'explique jamais le système de jeu du jeu de rôle, mais qu'on se contente dans les bases d'expliquer des systèmes de résolution, en général, hein, encore une fois, c'est des généralités tout ce que je dis là. Hein. Mmh. En général, on se contente d'expliquer des systèmes de résolution et on n'explique pas le système de jeu. Du coup, on ne sait jamais trop comment jouer au jeu de rôle. Et donc, du coup, c'est un ami qui va nous dire comment y jouer, en gros. On va apprendre à jouer en jouant. Si moi, je t'invite, Thomas, tu connais pas le jeu de rôle, je te fais jouer une partie de jeu de rôle, je te dis, voilà, c'est ça le jeu de rôle. Et là, je commets une erreur. C'est-à-dire que, du coup, tu vas croire que la partie de jeu de rôle telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui...
Elle s'est déroulée tout le temps comme ça.
Voilà, exactement. Donc, le but de l'article, c'était de montrer que l'hermétisme du jeu de rôle est lié à une confusion entre le système de résolution et le système. Et ensuite, je dis que... et c'est là, Manu, tu vas me rappeler ce que je dis. Qu'est-ce qui t'a choqué dans cet article, en fait?
Ce qui m'a choqué, c'est que, du coup, suivait derrière l'idée que tous les jeux qui ont ce que tu appelles des systèmes de jeux différents,
ouais,
sont aussi des jeux de rôle, tous les jeux narratifs qui ont ce que tu appelles des systèmes de jeux différents. Je précise ce que tu appelles parce que je ne donne pas tout à fait les mêmes terminologies parce que je le conçois pas exactement de la même façon. On l'a évoqué dans la préparation du podcast, je parle plutôt de dispositif narratif parce qu'on raconte une histoire,
ouais,
mais ce n'est pas nécessairement du jeu de rôle.
C'est-à-dire qu'en fait... Alors, attends, je ne comprends pas...
En fait, il y a un certain nombre de jeux,
ouais,
qui sont effectivement pas conçus sur le modèle un meneur de jeu des joueurs.
Ouais.
Qui sont des jeux de rôle et un certain nombre d'autres qui n'en sont pas. Et en fait, toi, tu englobais, on va dire, en prenant des métaphores mathématiques, l'ensemble jeu narratif dans l'ensemble jeu de rôle, alors que ma thèse serait plutôt que c'est l'inverse.
Alors, déjà, ma première précision, c'est qu'est-ce qu'un jeu narratif?
Alors, justement.
Un jeu où on raconte une histoire.
D'accord.
Un jeu de rôle, c'est un jeu narratif.
Parmi d'autres.
Un jeu de rôle, c'est un jeu narratif parmi d'autres. D'accord. Moi, je crois que ce que j'ai dit dans cet article, si mes souvenirs sont bons, c'est que le site narrativiste.eu et les tenants du jeu narratif, en général, cherchent à se distinguer du jeu de rôle en disant « Nous, ce qu'on fait, c'est pas vraiment du jeu de rôle, au sens classique du terme, c'est du jeu narratif. »
Ouais.
Et ça me choque. C'est-à-dire que pour moi, tous les jeux de rôle sont des jeux narratifs. Donc on peut pas dire que nous on fait du jeu narratif et eux ils font du jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire?
On peut pas séparer les deux.
C'est que moi tout ce que je voulais dire,
ouais,
c'est que
dire
tous les
jeux. Du jeu narratif, mais c'est pas tout à fait du jeu de rôle.
Oui, ça me choque pas. Ça ne me choque pas, ça.
Bah en même temps, c'est ce que tu signalais à l'instant que c'est ce qui te posait problème dans le discours de gens comme les gens qui bossent sur Narrativiste.
Ben non, parce que une chose est de dire nous on fait du jeu narratif, c'est pas du jeu de rôle. Ouais. Une autre est de dire le jeu de rôle c'est un jeu narratif. Moi, ce que je dis, c'est le jeu de rôle, c'est un jeu narratif.
Oui, oui, oui. Mais ça n'invalide pas leur thème.
D'où ça vient? Ça vient de l'idée que je pense que sur narrativiste.eu et sur les tenanciers du jeu narratif essayent de se distinguer du jeu de rôle classique en disant nous, on fait du jeu de rôle aussi, mais nous, ce qu'on met en avant, c'est l'histoire. Sous-entendu, dans le jeu de rôle classique, c'est pas l'histoire qui est au centre du truc. Or, dans le jeu de rôle classique, c'est aussi l'histoire qui compte, me semble-t-il.
Indéniablement, encore que si on se réfère au principe même et à la terminologie même, ce qui compte, c'est plus l'interprétation que l'histoire, puisque c'est un jeu de rôle, c'est pas un jeu d'histoire.
Attends, dans ces cas-là, ce que tu veux dire, c'est que dans les jeux narratifs...
Flavie.
Qui serait plus éloigné du jeu de rôle, il n'y aurait pas le côté interprétation.
Pas nécessairement.
D'accord, donc ce serait une différence entre les deux déjà.
Ah, pour moi, c'est pour ça que le jeu de rôle peut se positionner comme jeu d'histoire, parce qu'effectivement, on y construit des histoires de façon collaborative.
Fais attention, tu t'éloignes.
Mais le jeu d'histoire, le jeu narratif, le story game, on peut donner un certain nombre de noms, mais ça revient quand même à la même chose, c'est construire à un ou à plus que un, et de façon en intégrant des dispositifs ludiques, une histoire. Par exemple, les Horror Story Cube, que moi personnellement j'ai découvert sur Narrativiste.
Tu peux nous présenter rapidement le jeu pour
C'est un bloc de dés, il y a 9 dés, je crois, qui portent chacun tout un tas de dessins dessus.
Ouais.
Il n'y a pas deux fois le même dessin sur tous les dés, et le principe de base, c'est on lance les dés, on regarde les différents dessins, on construit une histoire avec. On peut le faire tout seul, on peut le faire à plusieurs, on peut le faire de façon collaborative, on peut le faire de façon compétitive. Mmh. Mais au bout du compte, il n'y a pas d'interprétation de rôle.
D'accord, non, mais ça c'est clair.
Ça reste un jeu d'histoire. Mmh.
D'accord. Donc tu penses en fait que tout ce que veulent dire les gens qui tiennent les tenanciers du jeu narratif, on va dire, tu penses que tout ce qu'ils disent, c'est le jeu de rôle, c'est un jeu narratif parmi d'autres, et nous on vous présente d'autres types de jeux en plus du jeu de rôle. Il y a d'autres jeux narratifs et les voici.
J'irais pas présumer de ce qu'ils disent, en tout cas moi c'est ce que j'entends.
Moi la manière dont je l'ai ressenti, c'est eux ils font du jeu de rôle, nous on fait du jeu narratif. C'est nous ce qu'on fait, c'est mettre l'histoire. Il y a aussi du jeu de rôle, mais notre jeu de rôle il met en avant l'histoire, là où vous les rôlistes classiques, ou en tout cas les jeux de rôle classiques, les auteurs de jeux classiques, vous ne mettez pas en avant l'histoire. D'ailleurs, il faudrait se demander ce qu'on met en avant. Je sais pas, ça dépend en fait. Je pense qu'ils pensent que ça dépend des jeux, qu'il y a des jeux qui vont plutôt mettre en avant la compétition, qu'il y a des jeux qui vont plutôt mettre en avant la simulation.
C'est pas ce que tu penses, toi?
Absolument pas. C'est-à-dire que moi, je pense pas ça. C'est-à-dire que je pense que dans tous les jeux, t'as des moments dans lesquels tu as de la narration, tu as de la simulation et tu as de la compétition. Mmh. Maintenant, tu as des jeux qui encouragent plutôt certaines propositions que d'autres. Et donc, dans tous les jeux, tu as des moments en fait. Tu n'as pas des jeux dont le. Même s'il y a des jeux qui encouragent plus à la création de l'histoire qu'à la simulation ou qu'à, par exemple, la compétition, t'as quand même une simulation et quand même une compétition au sein de la création de la narration. Par exemple, je prends un exemple très, très concret. Tu vois un jeu de narration où le but c'est de créer une belle histoire. Et ben, les joueurs sont en compétition pour créer la plus belle séquence, par exemple. Inversement, ils sont aussi en simulation lorsqu'ils se mettent à la place des individus qu'ils interprètent. Mettons, même si je suis l'auteur d'une histoire en ce moment. Je me mets quand même à la place de mon personnage. J'essaye donc de simuler ce qu'il pense pour aller de l'avant et écrire son histoire future. Tu vois ce que je veux dire? T'as des moments, en fait.
Ouais.
Bon, mais après, je crois que ça, c'est vraiment assez, finalement, j'allais dire, c'est du débat de fond de tiroir, ça.
Ouais, d'accord, c'est assez périphérique.
C'est vraiment un débat de spécialistes. On sait d'où on parle. En l'occurrence, qu'on a tous les deux en tête, Manuel, c'est la théorie GNS. Qui est derrière
plus toi que moi, mais
derrière notre propos. Non, mais bon, voilà. moi, c'est plus inquiétant que ça. Ce que je voulais souligner dans mon article, c'était le fait que le fait de séparer comme ça le jeu de rôle et le jeu narratif, ça donne une mauvaise vision, je trouve, du jeu de rôle classique. Parce que ça veut dire, nous, les tenanciers du jeu narratif, on essaye de faire quelque chose de plus vers l'histoire, mais et puis les autres, on ne sait pas ce qu'ils font en fait. Tu vois, c'est une vision un petit peu clivante. Voilà, c'est clivant, je trouve. C'est tout ce que je voulais dire. Et au fond, ce que fait narrativiste.eu, j'étais un des premiers inscrits sur leur forum pour les féliciter, etc. Je trouve ça très bien. Mettre en avant certains types de jeux qui changent au niveau des mécaniques et tout, c'est super. Maintenant. Narrativiste, déjà le fait de l'appeler narrativiste, c'est confusant parce que ça fait appel à la théorie de Ron Edwards.
Mais...
Et vraisemblablement, si on se fie à ce qui a été écrit sur narrativiste.eu là-dessus, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris cette théorie. Maintenant, c'est à mon avis. Hein. On s'en fout.
De ce que vous dites là, parce que moi, j'avoue, je suis jamais allée sur narrativiste.eu, mea culpa. J'ai l'impression qu'il y a une assimilation entre ce que tu appelles les story games et des jeux qui seraient dits narrativistes.
Ouais.
Et du coup, je pense que ce qui serait pas mal pour les auditeurs, ce serait qu'on
définisse
un peu mieux, parce que tu as défini un peu ce que c'était story game, mais qu'on définisse un peu mieux des jeux qu'on dirait à tendance narrativiste.
C'est excellent.
Il y a un point commun. C'est pas un hasard si ce rapprochement se fait entre les deux. Dans les deux cas, il y a effectivement ce que Romaric constatait de manquant dans des jeux de rôle qui fonctionnent sur un modèle usuel, on va dire, à savoir un meneur de jeu qui est le metteur en scène, arbitre, interprète des antagonistes et de quelques protagonistes, et un groupe de joueurs qui est un groupe d'interprètes des héros d'une histoire. Avec un meneur de jeu qui a quand même une quasi omnipotence sur la construction de l'histoire, laissant aux joueurs les choix de leurs personnages, mais c'est à peu près tout.
Un jeu traditionnel.
Ouais. Et en fait.
Vas-y, continue, Manu, je t'en prie.
Les jeux évoqués comme narrativistes. Interroge ce modèle-là à peu près systématiquement, de dire qui a le droit de raconter et qui dit la vérité dans l'histoire.
C'est le partage de la parole plus que un meneur qui donne la parole à certains.
Là, voilà. Et puis
ça, on peut le trouver dans des jeux classiques.
Moi aussi, pour moi, je le trouve
disons que c'est moins central. C'est vraiment ce qui construit sur les jeux. Qui sont
un jeu comme Polaris, tu le mettrais
alors,
où
le Polaris de Ben Lehman, bien sûr.
Justement, il se pose sur ces questions-là. Je dis pas que c'est narrativiste, hein, mais en tout cas, il fait partie de ces jeux qui interrogent la répartition de la parole et de l'autorité sur la narration.
Mais en quoi une répartition de la parole plus établie provoquerait un jeu de rôle narrativiste? Parce que même si c'est hyper établi autour de la table, ça peut très bien donner un jeu de rôle à tendance ludiste.
J'en vais pas ça en cause du tout. Hein.
J'ai un exemple. Hein. Prosopopée, le jeu de Frédéric Sintès, est clairement simulationniste. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'explorer le canon de la fiction proposée par Frédéric, et absolument pas de se poser des dilemmes moraux. D'accord ? Par exemple, ou de... Donc le but, c'est pas de mettre au cœur l'histoire, mais plutôt... le respect et la cohérence d'un canon. D'accord ? Donc c'est simulationniste et pourtant l'autorité est partagée entre les différents joueurs.
Je remets absolument pas ça en cause.
C'est un exemple pour nos auditeurs,
hein,
Manu.
Je remets vraiment pas ça en cause. Et puis en plus, je pense pas que cette distinction elle se fait au regard de la théorie jeunesse, même si on utilise le terme narrativiste en fait.
Je crois sincèrement que
est assimilé à un jeu narratif. Tout jeu qui va interroger dans sa conception la façon dont on raconte l'histoire ensemble et qui parle et qui a le droit de parler et quand et qui dit la vérité.
Je suis pas du tout d'accord avec toi,
Flavie.
Enfin voilà, c'est de loin. Enfin, Parce que dans ces cas-là, tous les jeux où il n'y a pas un MJ tout puissant, entre guillemets, seraient narrativistes.
J'ai pas dit que...
Non, mais je pose la question.
Il y a une espèce d'assimilation qui se fait comme ça, effectivement, dans une perception générale. Je suis moi-même assez peu positionné sur la question, mais je crois que pour le rôliste lambda, ouais, à partir du moment où il commence à y avoir des trucs un peu bizarres, où les joueurs font plus que juste interpréter leur personnage dans la construction de l'histoire, ça commence à être assimilé dans leur esprit à ce qu'on appelle un jeu narrativiste.
Ouais, sauf, enfin ouais, mais c'est un, enfin.
J'ai retrouvé la citation qui t'a choqué dans l'article et en fait t'as tout à fait raison, je me trompe mais complètement. Ce que j'explique, en réalité donc nous faisons tous du jeu de rôle, il n'y a pas d'un côté le jeu de rôle et de l'autre des story games ou des jeux narratifs. Voilà ce que je dis.
Ouais.
Donc, ouais, tandis que si les story games c'est quand même
pas
du jeu de rôle.
En fait si les story games c'est quand même pas du jeu de rôle, effectivement, je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui t'a choqué et effectivement t'as raison. Effectivement c'est une erreur. Par contre, en fait ce que je voulais dire c'est que le jeu de rôle c'est un jeu narratif. Alors ouais, alors justement, faut savoir quand même que si t'es venu ici, c'est pour parler, discuter cet article, et effectivement, là, je m'aperçois que t'as raison, qu'il y a une erreur, effectivement, mais c'est avant tout aussi pour nous présenter justement le story game, le storytelling, et on va parler aussi du jeu narratif. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous parler du story game? Rapidement.
Alors, avant toute chose, le storytelling, je vais assez vite l'écarter parce que à l'heure actuelle, c'est plus une méthode de communication politique qu'un jeu, comme peuvent l'être les story games.
D'accord.
C'est un truc qui est utilisé dans les médias. C'est une terminologie qu'on trouvait en jeu de rôle, mais il y a plutôt une dizaine d'années où c'était en gros à la grande époque du monde des ténèbres, on mettait en avant le fait, alors si on le traduit en français, c'était vraiment la position du conteur où on avait cette idée du meneur conteur qui va raconter, qui va vraiment construire une histoire et captiver une audience. Ça a un peu disparu. C'est des choses qu'on ne trouve plus sur les forums comme terminologie. Alors que le story game, c'est vraiment une catégorie de jeu de ces gens un peu bizarres qui se sont dit « Moi, j'ai envie de raconter des histoires. Pas nécessairement d'interpréter le héros d'une histoire, mais de raconter une histoire. J'ai envie de le faire tout seul ou, et c'est plus souvent le cas, avec mes petits camarades. Et on va développer des mécaniques ludiques. » Pour raconter cette histoire. Question qui me travaille et sur laquelle j'ai pas de réponse. Hein. Pourquoi est-ce qu'à un moment on décide de faire du fait de raconter une histoire un jeu?
C'est
quand même un truc super bizarre.
Tu en parlais en préparation du podcast, tu disais que c'était une question qui te...
Ça continue à me travailler et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'à un moment les gens disent raconter une histoire, on va en faire le fait même de la raconter, on va en faire un jeu. C'est un truc assez... Je pense que ça remonte à des choses assez profondes.
De mon point de vue, hein, parce que du coup, moi, j'ai pas mal d'amis qui jouent à des jeux de story game, alors qu'ils jouent pas aux jeux de rôle. Et en fait, c'est des gens qui sont bercés par la télé, les films, etc., ou même les livres. Et à un moment, ils se disent, les livres et tout ça, c'est un truc qu'on vit seul. Et en fait, ils ont envie de raconter une histoire à plusieurs, parce qu'en plus, c'est un truc qui soude vraiment une soirée, quoi. T'as construit un truc à plusieurs, et en même temps, t'es quand même, entre guillemets, dans leur tête, plus protégé que le jeu de rôle, puisque tu n'interprètes pas le personnage, en fait. Le fait que tu joues en racontant l'histoire, il y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'ils se mettent un peu en retrait et qu'ils vont pas se mettre en danger, puisque, en fait, il y a les mécanismes de jeu, c'est ça qui va mettre en place l'histoire, presque. Et eux, ils ont juste à faire un peu preuve d'imagination pour pouvoir suivre ces mécaniques et mettre en place une histoire sans pour autant avoir à interpréter quelqu'un ou être un peu plus en danger, quoi. C'est le côté site du jeu de rôle, la facilité plus
la
peut-être.
Rapidité, plus rapide, plus puissant. Moi, il y a un truc ça me rappelle une réflexion de Colas Duflo, je crois que c'est Colas Duflo, qui disait, donc c'est un philosophe du jeu, qui disait dans son livre le jeu fait monde à part. C'est-à-dire, en fait, dans tous les jeux, quels qu'ils soient, on met entre parenthèses le monde, on oublie la réalité quelque part, et puis on crée dans une bouteille, en fait, un univers. Que ce soit le Monopoly, où on va simuler qu'on est des hommes d'affaires à Paris achetant des immeubles, etc. Enfin, c'est pas vraiment qu'on le simule, mais tu vois, ça fait monde à part, quoi.
Ouais.
On occulte la réalité. Et donc, pourquoi est-ce que, à mon avis, on fait d'une histoire un jeu ? C'est parce qu'en fait, l'histoire, c'est pareil. C'est un monde à part. On oublie la réalité et hop, tac, d'une histoire fictive qui n'appartient donc pas au monde réel, hop, on tire un plaisir, on tire un jeu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que les deux sont structurellement liés, en fait.
Ouais,
dans les deux cas, on fait monde à part.
En même temps, t'es bien placé pour savoir, en tant qu'auteur, que
Manu.
Créer de l'histoire, écrire, concevoir une histoire, c'est un exercice qui aussi est complexe. Parfois douloureux, ça reste un truc surprenant. J'en suis plutôt ravi, hein, mais je continue à m'en émerveiller quand je vois des gens qui décident de jouer à raconter des histoires ou qui décident de créer des jeux. Ça devient d'autant plus rigolo quand on en fait des jeux compétitifs. Comme le sont par exemple des jeux comme Il était une fois ou Oui Seigneur des Ténèbres.
Ouais, où le but c'est d'abattre ses cartes le plus rapidement possible pour Il était une fois, par exemple.
Par exemple,
il y a un gagnant,
effectivement.
En fait, dans Il était
une fois. Ouais, il y a une compétition dans la narration. Un truc qui existe peu en jeu de rôle, ou en tout cas, les jeux sont rarement conçus pour ça. Thomas a l'air.
Moi, je dirais que j'ai déjà vécu des parties où il y a de la compétition dans la narration, puisque tu te retrouves à une table avec quelqu'un qui monopolise la parole pour mettre son personnage en avant, puis le deuxième il dit maintenant il a plus la parole que moi, donc je vais parler plus fort pour avoir plus la parole en avant. Et à la fin, le jeu où t'as 5 joueurs, ça fait quasiment qu'à 2 parce qu'ils se battent la narration pour être le plus beau héros de l'histoire.
Mais ça vient des joueurs, ça vient pas du jeu.
Je dis pas que ça vient du jeu, mais si, tu vois, dans le jeu de rôle, ça existe.
Ouais, mais ça existe de par les joueurs. Là, je parlais vraiment de jeux où les règles du jeu sont conçues pour mettre les joueurs en compétition.
Oui, parce que dans la tête des gens en général, quand il y a un jeu, il y a forcément un gagnant.
Bien sûr, mais
et
enfin...
les gens qui jouent au story game ne sont pas forcément des gens qui jouent au jeu de rôle, sont des gens qui vont décider de faire un jeu de société, alors que ils en ont pas forcément non plus l'habitude et dans le jeu de société qu'ils ont l'habitude auquel ils ont l'habitude de jouer, il y a un gagnant. Donc s'ils font un jeu, ils se disent qu'ils font un gagnant. Enfin, moi j'ai cette impression là.
Oui, non mais je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Ça a des impacts assez importants sur la façon dont on raconte l'histoire, puisqu'on se vole la parole, chose qu'on fait pas en jeu de rôle. Hein. On peut difficilement se voler la parole. Ça commence à arriver. Je pense qu'il y a des fonctionnements comme ça qui vont infuser petit à petit, où on commence à avoir des jeux de rôle, effectivement, où les joueurs peuvent voler la parole au meneur en disant « Ah bah non, en fait, c'est pas comme ça, parce que moi, j'ai une carte, une capacité, une compétence, et je dis « En fait, l'histoire, elle se passe comme ça.
» Ouais, c'est...
Ça me fait penser à un truc que tu disais hier soir, Manu, quand t'as dit que, en fait, dans le jeu de rôle, il y avait de plus en plus de dispositifs qui veut arriver du jeu de société. Et dans la mesure où le story game est, à mon avis, hein, le jeu de société le plus proche du jeu de rôle, hein, il est normal que du coup des systèmes de règles du story game finissent par arriver dans le jeu de rôle, y compris dans le fait de « je te pique la parole ».
Mais oui, non, mais c'est des choses qui, c'est des choses qui vraiment qui infusent petit à petit. Je crois que le boulot qui est fait, notamment sur Silent Drift, est du même acabit, même si ça part pas des mêmes personnes et pas avec les mêmes intentions. Mais à nouveau, dans les deux cas, sur ces deux pôles qui sont assez opposés, d'un côté des joueurs vraiment très très casual qui sont pas des joueurs de jeux de rôle, et puis de l'autre côté des rôlistes un peu durs qui vont essayer de pousser la petite bête. Il y a dans les deux cas cette remise en question de qui parle, quand il parle et qu'est-ce qu'il a le droit de dire.
En fait, voilà, je pense que c'est... la théorie de Ron Edwards, les théories de Vincent Baker et de Ron Edwards ont permis de réaliser que le jeu de rôle, c'était pas uniquement le système MJPJ, si j'ose dire, mais que l'autorité entre les différents joueurs autour de la table pouvait être partagé, c'est-à-dire l'autorité sur les décors, par exemple, qui va raconter les décors, qui va raconter les difficultés, qui va être l'adversité, qui va être la société autour de nous, etc. On peut répartir ça autour des différents joueurs autour de la table, et ça marche, ça fonctionne. C'est-à-dire on peut jouer un jeu de rôle dans lequel c'est pas uniquement le MJ qui joue le monde et les joueurs, pardon, qui jouent leurs personnages. C'est ça, en fait.
Oui, c'est ça le truc. Et c'est rigolo parce que ce positionnement-là, il vient pas que des, il vient pas que de Ron Edwards et Baker.
Tu
il
penses que le jeu de société, le jeu de plateau, en l'occurrence,
ouais,
a permis en fait cette révolution quelque part.
Bah ouais, parce que globalement, en jeu de société, y a pas, enfin, le jeu de rôle est une exception, mais il y a beaucoup de jeux de société où il y a pas d'arbitre. Et le meneur dans le jeu de rôle, c'est quand même l'arbitre, quoi. T'as pas besoin d'un meneur de jeu, effectivement, quand tu joues au Monopoly, mais t'en as pas non plus besoin quand tu joues à Jenga ou quand tu joues à Jungle Speed. Et il y en a pas besoin parce que la mécanique se tient elle-même avec les joueurs.
Ça me fait penser à une question, du coup, dont on a parlé hier soir aussi. Décidément, on a parlé de beaucoup de choses hier soir.
On a beaucoup parlé hier soir.
Voilà. À un moment, tu parlais de dispositif narratif. Et j'ai l'impression qu'en fait, on parle de ça depuis tout à l'heure. Et j'aimerais savoir, du coup, la différence que tu fais entre le dispositif narratif et le système.
Alors, c'est vraiment c'est la question centrale de l'article de Romaré qui dit « En jeu de rôle, on n'explique pas les règles du jeu ». On donne un système de résolution. Voilà, ce que s'appelle les règles du jeu. Moi, j'appelle ça dispositif narratif parce que finalement, ça ne décrit que qui parle quand. Donc vraiment la même chose. Je trouve que c'est plus complexe que les règles du jeu. Je pense que le système de résolution fait partie profondément des règles du jeu et qu'on peut pas l'en exclure. Mais que les règles du jeu, c'est d'un côté le dispositif narratif, comment on raconte,
ouais,
et puis le système de résolution qui est plus qu'est-ce qu'on raconte finalement.
D'accord, ok. Donc en gros, pour tirer à gros traits, ce que j'appelle le système de jeu, moi, c'est comment on gère les interactions entre les joueurs,
oui,
dans la réalité, qui raconte quoi et comment. Est-ce que Manu raconte les décors? Est-ce que Flavie joue l'adversité? Est-ce que Thomas joue un personnage? Etc, etc. Tandis que le système de résolution, c'est plutôt lorsque le personnage de Thomas effectue quelque chose dans la fiction, comment est-ce qu'on va faire pour savoir s'il réussit ou pas son action,
oui,
ou comment se déroule son action, etc. C'est ça, et donc toi, t'appelles ça le dispositif narratif.
Ce que t'appelles les règles, moi j'appelle ça le dispositif narratif, parce que pour moi, les règles, c'est l'ensemble des deux. C'est le système de résolution et ce dispositif, comment on parle. Et qu'est-ce qu'on raconte?
C'est-à-dire le dispositif narratif, ça me semble, pour moi j'appelle ça le système tout simplement, mais dispositif narratif, ouais, ça me semble assez bien traduire ce que j'entends par système.
En fait, moi, Thomas, ce qui me choque, c'est de séparer la narration et la résolution, parce qu'en fait la narration va découler de la résolution.
Ouais, la résolution.
Dans la plupart du temps, ouais, la résolution, ouais, d'un conflit, d'un jet de dés. N'importe quoi, dire que moi je trouve que la plupart du temps, ça aussi c'est ce que tu as dit tout à l'heure qui m'a un petit peu choqué, tu disais que dans les règles, dans la plupart des jeux de rôle, ça dit qui parle, quand est-ce que quelqu'un va parler, ça explique que là c'est le MJ qui doit parler, si c'est le joueur. Dans la plupart des bases, on dit jamais qui parle, on dit tu réussis ton jet, il se passe ça, on te dit jamais qui parle, en fait on parle toujours tacitement dans l'idée que ben c'est le MJ qui parle.
Oui.
Mais il n'y a aucun moment où on dit le MJ parle ou le joueur parle.
Ah oui, non, ça manque.
Voilà.
Je suis d'accord sur le fait que
je trouve qu'au niveau interne, dans les bases, il y a dès qu'on doit parler interprétation, roleplay, jeu du joueur, il n'y a rien. Parce qu'on tacitement, on dit que ça se fait plutôt, ça se fait comme ça traditionnellement, donc on le fait comme ça. Voilà. Et l'idée, alors après, l'idée, moi, est intéressante, mais c'est vrai que séparer la narration et la résolution d'une action, d'un GD, enfin, une résolution. Je trouve ça dérangeant parce que je pense que dès qu'il y a une résolution, la narration doit forcément arriver dedans. On devrait mettre dans les règles, si tu réussis ton jet de dés, eh ben, il se passe telle chose. Et en plus, il faut narrer, alors, soit d'une telle façon, si je veux imposer une narration, mais il dit quel joueur va parler et de quoi il va parler, de sa réussite.
Alors en fait, le truc, c'est que
ça va faire partir des règles.
Moi, je remets pas en cause ça du tout, mais c'est deux choses différentes en fait. Mais les deux s'impactent.
Différencier les deux, moi, ça me choque.
C'est pour les distinguer, mais est-ce qu'on les différencie pas en fait? C'est vrai que si par exemple je joue un chevalier, par exemple, d'accord, je suis le personnage du chevalier là. Bon, bah lorsque je tape le dragon, tac, on fait appel au système de résolution. Lorsque le dé est lancé, si je réussis, là, il faut que quelqu'un parle. Et là, du coup, dispositif narratif, on regarde qui parle lorsque je réussis mon action. Est-ce que c'est le maître de jeu qui me décrit quand je réussis, est-ce que c'est le maître de jeu qui décrit ce qui se passe? Ou est-ce que c'est le joueur, par exemple? Ça, c'est tout con, quoi. Est-ce que c'est moi, Romaric, qui va décrire ce que mon personnage réussit? Ou est-ce que c'est le maître de jeu qui va me dire, ah, tu réussis à trancher le dragon, et etc. Donc là, effectivement, il y a toujours une porosité entre les deux.
Voilà,
si
une
tu
porosité. Tiens, si on fait la distinction comme ça, ce serait, alors, je grossis énormément, c'est, je t'appelle, prends le chevalier, je vais t'appeler le dragon, je regarde le MJ prend livre de règles, voilà comment ça se passe, il le fait. Réussite du jet, alors attends, maintenant je prends le livre, narration, il a réussi son jet, ça se passe comme ça. Alors qu'en fait, il devrait consulter que le livre de règles. Bien évidemment, le système donc que tu proposes, c'est quelques lignes qui est effectivement mise dans les règles. Mais je trouve que séparer les deux, c'est comme avoir deux bouquins.
Mmh. Ouais, c'est comme avoir deux bouquins. À cette différence près que le dispositif narratif n'est pas nécessairement corrélé au système de résolution, parce que le chevalier qui tape le dragon, il peut le taper sous système des vins ou le taper sous monde des ténèbres. Si à la fin on a décidé que s'il réussit, c'est le joueur qui parle, s'il rate, c'est le meneur qui parle, ça marche dans les deux cas.
Moi, je pense en fait que toutes ces distinctions, d'accord, ne servent plus à rien à partir du moment où on en a conscience. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ces deux distinctions entre système et système de résolution, d'accord, deviennent poreuses à partir du moment où on est à degré comme Thomas Poussou, d'accord, qui lui a parfaitement intégré cette distinction.
Bien sûr.
Et du coup, maintenant, dans ses jeux de rôle, lorsqu'il en crée, dans Mao Shoujo par exemple, il ne fait plus la distinction. Parce qu'il voit bien ce qui appartient à l'un, ce qui appartient à l'autre. En fait, il n'a plus besoin de cette distinction. Mais Thomas, je voudrais t'avertir que lorsque je t'ai rencontré, c'est pas ce que tu pensais.
Je suis tout à fait d'accord.
Et donc, que cette distinction, même si aujourd'hui tu la juges inutile et aujourd'hui tu vois tout à fait la porosité qu'il y a entre les deux, cette distinction t'a permis de prendre conscience qu'il y avait une porosité entre les deux, justement.
Mais c'est une distinction, c'est pareil, à l'époque où je ne la connaissais pas, qu'on est venu me l'expliquer, je dis oui, c'est naturel. D'une part, et puis après, une fois qu'on m'a montré les règles où on t'explique que la narration peut se faire autrement, t'es obligé de dire, mais faut que les deux soient dedans.
En fait, à mon avis, cette distinction-là, historiquement, elle a servi à prouver à des personnes qu'il y avait quelque chose de plus à expliquer dans les bases de jeux de rôle.
Parce que si on prend l'exemple de Mao Shoujo, je suis d'accord tu dis que je mets pas de règles de narration. Mais si, en fait, il y en a dedans.
Si, enfin,
voilà, dans les règles, on explique bien que dans tel cas de réussite,
justement,
tu passes à chose.
Ce que je te dis, c'est que toi, t'as tellement intégré le truc. Voilà, c'est ça.
Voilà, il
est intégré
dans les règles de façon, parce qu'il faut pas que ce soit dissocié. Ça fait partie du jeu. Parce que c'est ma proposition de jeu. Mon jeu étant basé sur comment la narration va se produire, les règles vont diriger cette narration quelque part.
Voilà. Non, mais je suis entièrement d'accord. Juste, le truc, c'est que pour un article de fond, par exemple, comme celui que j'ai écrit pour Petit Peuple, c'était vachement utile de faire cette distinction parce que ça permet aux gens de dire, ah, mais ouais, mais carrément, en fait, il y a quelque chose que j'explique pas dans ma base. Effectivement, alors on peut appeler le système, on peut l'appeler le dispositif narratif, mais effectivement, quand on regarde par exemple une base de jeu de rôle en général, donc et encore, hein, ça évolue comme disait Manu, hein, ça évolue grandement, on va dire il y a 2-3 ans, on regardait une base de jeu de rôle, on s'apercevait qu'il y avait un univers et un système de résolution, et puis qu'on nous expliquait, il y a un MJ, il y a un PJ, et parfois même, on allait jusqu'à dire, pour si vous ne connaissez pas le jeu de rôle, allez voir la plaquette de la FFJDR pour savoir comment ça se passe. Autrement dit, on faisait référence à un système de jeu universel, en fait, le système MJPJ, comme étant le jeu de rôle. On disait ça, c'est le jeu de rôle. Mais
parce
non,
que traditionnellement,
ce n'est qu'un système parmi les autres.
Ouais,
le MJPJ, ce n'est qu'un système.
C'est comme
parmi
ça que ça marche.
Voilà, traditionnellement, historiquement, c'est comme ça que ça marche.
Et on ne peut pas ignorer la force d'une tradition.
On ne peut pas ignorer la force d'une tradition, mais aujourd'hui, on en revient, on dit, bah non, ça peut marcher différemment, et ça reste du jeu de rôle pour autant. Mm-hmm. Et les tenanciers, en fait, du jeu narratif, ce qui m'a dérangé, c'est que j'avais l'impression, mais j'avais peut-être à tort, que ces gens-là disaient, nous, on ne fait plus du jeu de rôle. On vous laisse avec vos traditions. Nous, on fait maintenant du jeu narratif. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, non. Le jeu de rôle reste un jeu narratif. Et en fait, les jeux narratifs sont du jeu de rôle. Enfin, certains, d'accord, sont du jeu de rôle, mais qui changent juste le système. On passe d'un système MJPJ à un système de répartition de l'autorité. C'est ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimé, par contre, Manu, dans mon article. Et ça, je le reconnais. Thomas.
Ouais, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit un peu précédemment, sur le fait que il y a 3 ans, il y avait déjà une évolution dans le jeu de rôle. Parce que moi, j'ai retrouvé des vieilles bases que j'avais. J'ai sorti un Rêve de Dragon, un Néphiline seconde édition. J'ai ouvert le bouquin, j'ai essayé la section où c'est marqué qu'est-ce que le jeu de rôle. Ouais. Ça n'existait pas à cette époque-là. Alors que maintenant, dans toutes les bases actuelles, il y a toujours un moment où on marque qu'est-ce que le jeu de rôle. Et on essaie d'expliquer qu'est-ce que le jeu de rôle dans les bases. Donc, moi qui disais oui, on l'explique vite fait, mais on explique une seule forme, mais en fait déjà c'est déjà pas mal parce qu'avant on n'expliquait pas vraiment pas du tout.
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pour ça qu'on dit bien, et ça c'est clair, on dit bien que nous, voilà, quand on a commencé le blog de la cellule, on est parti en croisade un petit peu contre cette idée-là. 3 ans plus tard, même on est à la 3e saison, ça a déjà bien évolué. Et on est déjà loin, loin, loin de notre enjeu principal.
Ça avait déjà commencé un peu avant, parce que moi j'ai... Mon épiphanie, je l'ai eu en commençant à faire jouer sur un jeu qui s'appelle Wushu, qui a déjà pas mal d'années. Je crois qu'il date de la fin des années 90, début 2000, de tête. Où la proposition est que, en gros, plus le joueur décrit, plus il a de chances que son personnage réussisse son action avec éclat. Et il peut décrire l'action elle-même, mais un tas de conséquences autour qui touchent un certain nombre d'éléments du décor, notamment, ce qui donnait la possibilité aux joueurs de commencer à aller chercher au-delà de leur personnage. C'est là où moi j'ai commencé à me poser justement ces questions de ouais, mais qui parle, qui a le droit de parler de quoi. Et si à un moment tous les joueurs ils ont le droit de tout raconter, le meneur, qu'est-ce qu'il fout là-dedans?
Parce que
ça devient une question aussi assez intéressante. Est-ce qu'il y a toujours un meneur? Et s'il y en a un, qu'est-ce qu'il fait? Et je crois sincèrement que poussé à un certain niveau, le meneur, il est là pour faire un peu l'agent de circulation et s'arranger pour que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire autour de la table, sans forcément lui-même raconter d'histoire.
Moi, j'ai envie de dire que ces questions-là, elles étaient soulevées. Alors, toi, tu les as reçues avec Wushu, mais j'ai envie de dire que ces questions-là, elles étaient soulevées. Elles sont soulevées à toutes les tables de jeux de rôle, en fait, quasiment. Toutes les tables de jeux de rôle traditionnelles se posent des questions de qui a le droit, mais est-ce que t'as vraiment le droit ? Je me souviens d'une partie de Chine avec toi, Thomas, où justement, c'était posé la question. Est-ce que c'était toi qui avais le plus autorité à dire comment devait penser mon personnage ? Tu te souviens de cette table ?
Oui, je m'en souviens de cette table et des propositions qui ont été déformées sur le net.
En tout cas, je sais pas si j'ai bien réussi à retranscrire le débat qu'on avait eu à ce moment-là, mais c'était l'idée, c'était de dire qui a autorité sur l'esprit de mon perso, finalement. Voilà, c'était ça.
C'est-à-dire que la réaction... dire que toi, en tant que joueur, tu avais une réaction qui me semblait disproportionnée par rapport à ce que
un homme
de cette époque-là, avec la culture de son époque, est-ce qu'il réagirait vraiment comme ça?
Mais je crois que le principe de la campagne de Brand, là, sur ce coup-là, de Jérôme Larré, c'est justement ça, c'est de faire réagir le joueur qui est derrière le personnage et de créer un conflit entre les deux. Mais donc c'était intéressant, ça pouvait que d'ailleurs que Brand là-dessus avait réussi son coup.
Ah oui, de toute façon, c'est clair. Là, c'était obligatoire que ça réagisse comme ça.
Ouais. Et même c'était prévu par la base, il me semble. Parce que tu disais que finalement c'était à la fin.
La campagne, c'était prévu qu'il y ait au moins un joueur à réagir comme toi tu réagis.
Okay,
c'est obligatoire.
Non, mais tu vois, on se posait déjà ces questions sur un jeu de rôle aussi classique.
Bien sûr.
Pour moi, c'est là que c'est la vraie différence avec le story game. Parce que dans le story game, en fait, comme on n'interprète pas un personnage, on va pas avoir comme dans Wurm par exemple un moment où on va se dire. Ah, mais est-ce que j'ai le droit de faire un plan par terre pour indiquer l'endroit où je dois aller chercher des pattes ou un os, je sais pas quoi.
Ah oui.
C'est parce que dans les story games, tu n'interprètes pas de personnage, donc en fait,
je suis pas d'accord.
Il y a un certain nombre de story games,
on interprète des personnages.
Il y a quand même un certain nombre de story games où il y a un dispositif narratif,
Manu.
Mais il n'y a pas de système de résolution.
Ouais.
Et là, tu places vraiment quelque part l'histoire au cœur du truc. C'est-à-dire que ce qui compte finalement, c'est de raconter l'histoire, mais on fera jamais
de conflit entre personnages fictifs.
Et si, on peut faire des conflits, mais on n'appellera jamais les règles pour savoir qui c'est qui gagne à la fin.
D'accord, ouais.
Sur qui c'est qui gagne dans l'histoire entre le prince et le dragon qui se bat, le joueur qui a l'autorité et la parole.
Tu peux citer un exemple, Manus, de jeu de ce type-là?
Bah, j'ai Il était une fois en tête, qui est un peu l'ancêtre de tout ça, dans les jeux français.
Oui, voire même le jeu dont tu parlais tout à l'heure, hein. Les dés avec les cubes.
Oui, les cubes, History Cube.
History Cube,
chose.
Voilà, t'as.
Voilà, Thomas. Si je prends pour le cas de History Cube, il y a du conflit entre joueurs dès que tu joues à deux, puisque le principe c'est qu'on jette des dés, il y a les symboles.
C'est pas ça que je remettais en cause.
C'est le conflit entre personnages. Il n'y a pas besoin d'un système de résolution, puisqu'il n'y a pas de moteur physique.
Mais justement, c'est pour en venir là.
Le jeu vidéo,
moi j'ai une réponse justement sur. Je pense que si il y a un système de résolution tacite qui est que, vu que le but est de créer une histoire, tant que les autres joueurs à la table disent attends, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, et que les autres joueurs l'acceptent. Eh ben, ok, tu fais ce que tu veux.
Oui, mais ça, c'est un dispositif narratif, Thomas. C'est-à-dire qu'on reste encore dans des joueurs qui jugent d'autres joueurs. En fait, le vrai truc, c'est que le système de résolution, au sens dur du terme, ça ressemble à un moteur physique dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que.
Tu jettes les dés, par exemple.
Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que là, dans le dispositif dont tu parles, on a juste des auteurs autour d'une table qui créent un truc ensemble et à un moment donné un des auteurs peut dire à l'autre et attends tu déconnes c'est pas crédible ce que tu fais. Mais tu vois on est autour d'une table en train de créer un truc alors que on n'est pas dans la position d'un joueur qui explore le moteur physique créé par un auteur. Tu vois ce que je veux dire? Système de résolution c'est plus comme une espèce de moteur physique en fait.
Le référent est pas le même quoi.
Ouais voilà c'est ça ouais. Enfin c'est ça. Le référent est pas le même.
Et je crois qu'il y a des jeux. Alors il y a des jeux qui prennent la voie médiane qui vont être des jeux qui vont avoir un fonctionnement plus classique, mais dans certains cas le joueur peut prendre l'autorité pour x ou y raison parce qu'il a une carte, il a tiré une carte dans un paquet de cartes qui lui dit qu'il a le droit de d'influer sur une narration sur laquelle son que lui en tant que joueur il a droit d'influer sur une narration de la façon de façon plus étendue que ce qu'il peut faire habituellement ou certaines situations qui se jouent avec pas tout à fait le même avec un dispositif particulier de répartition de la parole autour de la table pour spécifiquement ouais. Une intrusion ou une poursuite j'ai alors parmi les jeux que j'aime bien aussi faire jouer parce que j'y retrouve mes petits de ce point de vue là il y a des choses comme les Mille Marches ou Tranchons et Tracons
ouais. Qui sont 3-16 aussi hein, qu'on peut citer
3-16
sont
dans
totalement dans l'hybride
aussi, hein.
C'est-à-dire que tu vas avoir toute une phase où t'as un système de résolution un moteur physique du jeu et puis après t'as le tribunal en fait l'inquisition à la fin où là cette fois-ci on crée de la dramaturgie quoi mais même si on en crée déjà avant dans 3.16 hein, le système de résolution nous amène à créer une histoire.
Par exemple dans 3.16 quand un joueur utilise une de ses capacités pour gagner ouais. Ou partir il prend en otage la partie le temps de cette utilisation de capacité il dégage purement et simplement le système de résolution qui sert habituellement
ouais.
pour prendre la main sur l'histoire.
Prendre la main sur l'histoire. Est-ce que tu crois qu'il y a des jeux de rôle qui sont pas narratifs?
Est-ce que je crois qu'il y a des jeux de rôle qui sont pas narratifs? C'est une excellente question.
En fait, elle est très importante cette question. Parce que moi je pense que si on interroge Maître Signe par exemple, qui est un des fondateurs de narrativisme.eu, je pense qu'il dira oui, il y a des jeux de rôle qui sont pas narratifs. Parce qu'il y a des jeux de rôle qui mettent pas en avant le système. Alors, j'aimerais que Maître Signe, si possible, nous laisse un commentaire. Je pense qu'il nous écoute régulièrement. Ouais. Donc, il pourra nous laisser un commentaire pour savoir si je dis de la merde. Mais je pense que c'est quelqu'un qui pense que certains jeux de rôle, comme par exemple Donjons et Dragons, par exemple, ne sont pas des jeux de rôle narratifs, dans la mesure où ils ne mettent pas en avant l'histoire. Ils mettent en avant la compétition entre les joueurs. Et il dirait que ce sont des jeux de rôle ludistes.
Ouais. Et donc, j'entends le truc.
Et ça, moi,
je
suis contre.
Je serais assez tenté de penser que certains jeux de rôle ne sont. Enfin, je doute. De la capacité à générer des histoires de certains jeux.
Tous les jeux de rôle sont-ils des story games en fait?
Est-ce que tous les jeux de rôle servent à raconter des histoires?
Ouais.
C'est ça le fond de la question. Et ben, tu vois, je pense qu'un jeu comme Psychodrame par exemple, je suis pas certain que ce soit un jeu qui serve à raconter des histoires.
Le petit blanc là, nickel. Alors, moi je pense que si quand même.
Moi je pense que si aussi.
Je crois que ça raconte quelque chose de fort. Je crois que ça joue des situations spécifiques.
Mais ça génère bien une histoire.
J'ai pas de certitude. Je dis pas que ça n'en génère pas. Hein. Je dis que je suis pas certain que ce soit.
Moi j'en suis certain.
Ouais.
J'en suis certain. Ne serait-ce que parce qu'en fait, tu vas prendre parti pour les personnages et du coup tu vas vouloir que l'histoire se déroule de telle ou telle manière. Enfin, on voit que t'as une prise sur l'histoire, on voit que l'histoire est au cœur du jeu parce qu'on a envie que l'histoire se déroule bien ou l'histoire se déroule mal, ou on a envie pour tel ou tel personnage qu'il soit puni ou qu'il soit etc sanctionné. Il y a tous des enjeux moraux en fait autour de Psychodrame qui font qu'on sent qu'il y a une prise sur l'histoire.
Je doute pas un seul instant de l'implication
des
joueurs.
Moi, c'est vraiment
la question dans ces cas-là ici, c'est j'ai l'impression qu'en fait vous n'êtes pas d'accord sur ce que c'est une histoire dans le jeu de rôle.
La question se pose aussi. C'est vrai que pour moi, je vois bien que Psychodrame est inspiré de certains films, notamment indéniablement des histoires.
Ouais.
Mais je sais pas, je suis, a priori, je serais tenté de penser que tous les jeux de rôle sont par nature des jeux narratifs.
Ah, c'est bien. Moi aussi. Mais est-ce que tu penses que, vu la description qui en est faite sur narrativiste.eu, est-ce que tu penses qu'eux le pensent? Bah, c'est dommage qu'ils soient pas là.
Je suis complètement incapable de me mettre dans les pompes de ces gens-là.
Question, dire que moi je peux pas être dans la tête des personnes qui ont fait narrativiste.eu. Par contre, effectivement, quand on va sur le site, quand on regarde qu'est-ce que le jeu narratif, la façon dont ils l'écrivent, j'ai l'impression qu'il y a que tous les jeux de rôle, pour eux, tous les jeux de rôle ne sont pas narratifs. Bah moi, des jeux de rôle qui sont autre chose.
Moi voilà, c'est ça qui me fait peur. Si la réponse c'est non, non, on a parfaitement conscience que tous les jeux sont narratifs. Nous, tout ce qu'on veut dire sur narrativiste.eu, c'est qu'il y a certains jeux qui mettent plus en avant l'histoire que d'autres. À voir si ça a un sens, je sais pas. Ok. Mais si l'idée c'est de dire non, non, il y a des jeux qui sont narratifs, il y a des jeux de rôle qui sont narratifs, pardon, et il y a des jeux de rôle qui ne le sont pas. Alors là, je suis totalement pas d'accord.
Ouais, j'ai des doutes là-dessus, parce que j'ai moi-même entendu parler des Story Cube sur Narrativiste, parce que le deuxième jeu qu'ils ont lancé en souscription, qui fonctionne sur un modèle qui est assez proche du modèle du jeu Les Aventures Extraordinaires de Baron Munchausen, joue pas tant sur l'interprétation d'un rôle. On joue des personnages qui racontent les histoires qui leur sont déjà arrivées. Et alors du coup, finalement, c'est pas tant l'interprétation du personnage qui importe que le fait de raconter une histoire en amont qui est quelque part déjà un petit peu extérieur au personnage lui-même, tu vois. Mmh. Et du coup, je crois qu'ils sont... Enfin, en tout cas, du coup, je vois des propositions qui sont pas des propositions de jeux de rôle, qui sont des propositions de jeux d'histoire.
D'accord.
J'ai pas de certitude après, hein. Non, mais je crois qu'en tout cas, il y a des propositions qui vont au-delà du jeu de rôle sur des jeux d'histoire en disant il y a des passerelles naturelles entre les deux. Parce que les jeux de rôle, c'est des jeux d'histoire. Et du coup, si vous avez essayé le jeu de rôle, il y a d'autres façons de raconter des histoires de façon collaborative, ensemble. On peut faire comme si, comme ça, on peut dire, on raconte une histoire qui est déjà arrivée, ce qui soulève tout un tas de questions sur la destinée des personnages et ce qui peut leur arriver ou pas dans une histoire. Je crois que... Enfin, je serais tenté de leur prêter des bonnes intentions. Là-dessus.
Je te repose la question, Manu. Qu'est-ce qu'un story game ?
Un jeu où on raconte une histoire. Pour moi, vraiment, c'est un jeu d'histoire, un jeu narratif, un story game, c'est la même chose. C'est un jeu où le but, c'est de raconter une histoire. Le jeu de rôle en fait partie, par nature. Et puis, il y en a d'autres. Les story cubes en font partie aussi. Et a priori, le lien entre les story cubes, par exemple, et Donjons et Dragons est assez ténu. Mais dans les deux cas, au bout du compte, on essaye de raconter une histoire.
Donc, toi, tu ne soutiendrais pas qu'il y a des jeux de rôle qui ne soient, ils sont pas narratifs, qui ne sont pas des story games.
A priori, non.
Voilà. C'est ça que je voulais dire dans mon article. Donc on est d'accord finalement là-dessus.
Oui, je pense que c'est juste une inversion de termes. Hein. Je pense qu'au bout du compte, on est globalement plutôt d'accord. Et je suis surtout content que ça donne l'occasion d'aller parler justement de ces jeux qui poussent un peu dans les coins. Et je trouve que c'est intéressant justement parce que moi, je fais partie des gens qui jouent aux jeux de rôle parce que ce que je trouve intéressant, cette idée de raconter une histoire ensemble.
D'accord.
Et je trouve intéressante cette tendance qu'il y a, qui se développe, voilà, à proposer une autre façon que un meneur qui va raconter une grande partie de l'histoire, quand même, faut pas se cacher derrière son petit doigt, et des joueurs qui vont un petit peu interagir dedans avec une emprise assez limitée.
Moi, juste, je trouve ça très intéressant et tout, mais j'ai aussi envie, moi, je rajoute un truc, en fait, par rapport à toi, j'ai aussi envie que l'histoire qu'on va raconter, elle nous bouleverse, qu'elle soit, qu'elle nous change,
qu'elle ait de l'implication.
Qu'on en ressorte changé, marqué, que ça nous fasse réfléchir, que ça nous intéresse, au sens le plus fort du terme. Il y en a qui disent que ça nous met en danger, au sens de la mise en danger, au sens le plus noble du terme, hein, pas mettre en danger bien sûr, physique, mais que ça nous interroge, ça nous questionne, etc. Moi, c'est ça que je rajouterais. C'est-à-dire que non seulement je suis très content que le jeu de rôle s'interroge sur la manière de mieux raconter une histoire, le partage d'autorité, etc., mais aussi je voudrais, et c'est en ça que je trouve que Psychodrame est génial, et je voudrais...
Je n'ai pas dit que Psychodrame n'était pas bon.
Non, 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 je sais
pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit.
Je dis pas que tu dis ça. Je dis juste que voilà, c'est mon avis personnel. C'est ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, on en ressort avec des questions, des bouleversements. Moi, par exemple, j'ai été très longtemps sans pouvoir jouer à ce jeu parce que ça me bouleversait trop.
Mais je crois que par nature, en tout cas à l'heure actuelle en jeu de rôle, c'est le problème. C'est quelque chose qu'on a du mal à atteindre effectivement avec un certain nombre de jeux narratifs compétitifs, notamment. Quand c'est compétitif, ça fait des histoires un peu, souvent un peu bizarres, parce que les joueurs se tirent la bourre.
Ouais.
Mais en jeu de rôle, enfin, je serais tenté de dire que c'est la nature même du jeu de rôle. Sinon, il y aurait pas des rôlistes à te bassiner dans toutes les conventions en te racontant la campagne qu'ils ont jouée il y a 3, 5, 10 ans. Ils ont été bouleversés par nature.
Je pense que ce que veut dire aussi Romaric, c'est une différence que tu fais pas mal, Rome, dans le cinéma. Entre les films popcorn et les films qui font entre guillemets réfléchir.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, vous l'avez pas encore entendu, chers auditeurs, mais le mois prochain, on testera Lady Blackbird. En one shot, Lady Blackbird, c'est un excellent jeu. Les mécaniques sont excellentes. Vous l'entendrez le mois prochain. Vous entendrez nos retours là-dessus. Mais je trouve que on n'en ressort pas. Enfin, moi, ça m'a pas bouleversé.
Mais il faut les deux.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les deux, de la même façon que les deux types de cinéma existent, les deux types de livres existent, c'est pas parce qu'il y en a un que tu préfères que l'autre n'est pas bien. Je veux dire, t'es quelqu'un qui apprécie Star Wars.
Oui, tout à fait.
Et je pense pas que quand tu mates Star Wars, qu'on soit putain, je veux devenir comme Yoda, quoi. Enfin. Non,
mais
de la même façon
okay.
que le discours d'un roi, par exemple, moi, m'a bouleversé, c'est pas pour ça que je vais cracher sur un bon vieux Super 8, quoi.
Non,
les deux
c'est sûr.
Doivent exister pour nous permettre aussi des fois de pouvoir mêler l'aspect popcorn et l'aspect réflexion dans une histoire qu'on peut créer.
Je suis même assez tenté de penser que c'est assez complémentaire.
Tout à fait. Non, mais carrément.
Parce
mais voilà,
moi je veux des histoires qui me bouleversent, mais je veux aussi des histoires qui me font rire.
Moi, je te parle
juste de mes goûts, aussi des histoires où quelque part, à un certain niveau, le fait de raconter ensemble une histoire. Certaines soirées, certaines parties. Ce qui m'importera le plus là-dedans, c'est le ensemble. Et c'est d'être avec des gens autour d'une table à partager un sujet de discussion. Quoi. Donc, je pense que tous ces éléments-là sont.
Non, mais c'est vrai que souvent dans mon discours, ça ressort le fait que j'ai tendance à préférer les jeux qui me font réfléchir ou en tout cas qui me bouleversent aux jeux qui ne font que me distraire finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ressort dans mes discours et puis je dis, par abus de langage un peu, ce jeu. Là, il est mieux que l'autre, mais c'est un abus de langage, évidemment. Il faut que
les Lady Blackbird, tu vois, d'accord, j'ai pas poussé ma réflexion sur la mort, etc. Mais qu'est-ce que c'était bon, quoi. Je suis désolé, c'était cool.
Non, mais c'est clair, ok, soit.
Ce cool facteur là, il est, ouais, c'est un truc qui fonctionne bien et je serais tenté de penser que c'est plus efficace à exploiter dans le partage de narration.
Ouais.
Que les histoires importantes et bouleversantes. Parce que.
Moi, je pense qu'il faut vraiment mêler les deux pour que
ce soit. Je pense que les deux sont importants, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des émotions en jeu de rôle, mais ça reste un loisir et un truc qu'ils font aussi pour se détendre entre amis. Et globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour trouver que c'est plutôt bien. Et que là, il y a plus de monde que dans les gens qui font du jeu de rôle pour réfléchir, pour se poser des questions existentielles et avoir des grosses émotions. Et c'est là, je pense qu'il y a des gens à toucher et je pense qu'il y a des mécaniques à développer. Ça commence petit à petit, qui font que une histoire est plus cool et plus fun à jouer si la parole est pas répartie entre le meneur qui a bossé 15 heures pour préparer son scénar et les joueurs qui sont arrivés les mains dans les poches et qui répondent juste ponctuellement à la question que faites-vous.
Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les story games et les jeux narratifs. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Est-ce que la question de Manuel reste en suspens ? Pourquoi est-ce qu'on fait de créer une histoire, un jeu ? C'est vraiment une question. T'as une idée, Tom ?
C'est tout simple. Bah ouais, c'est que j'aime les histoires. J'adore ça. Et que si on peut me donner des règles pour avoir un but, pour créer une histoire et que tout le monde se marre en même temps en suivant les mêmes règles. C'est normal qu'on fasse des jeux avec des histoires.
Puis c'est bien quand on a l'habitude de regarder des histoires, de pouvoir aussi le faire avec les gens qu'on aime ou les gens qu'on apprécie.
D'accord. Mais on dit pas du romancier qui crée un roman alors qu'il est en train de créer une histoire qu'il est en train de jouer. Si, oui, non. Bah,
non, mais c'est plus facile quand t'es à plusieurs pour passer une soirée, par exemple, de créer une histoire. Et comme je disais tout à l'heure, on se met peut-être un petit peu moins en danger quand on joue à un story game qui n'est pas un jeu de rôle. Pour créer une histoire, c'est plus facile avec un système de jeu, surtout quand on est plusieurs, pour ouais. mettre en place aussi les différents rôles autour de la table et qu'on finisse pas par se taper dessus en disant « Si, moi je veux que la princesse, elle se tape le machin !» alors que l'autre, il est pas d'accord. Quoi.
Mais quelqu'un qui joue à Sweet Agatha tout seul.
Ah bah, on peut jouer aussi tout seul.
On va poser la question,
hein.
Écouter le podcast.
On peut jouer aussi tout seul, hein. Le principe des jeux vidéo, ça reste ouais. ça aussi, vivre une histoire tout seul, non,
c'est
possible aussi.
C'est pas un story game, le jeu vidéo.
Non, mais Sweet Agatha, la seule, c'est un peu limite sur certains points, mais on peut y jouer tout seul, et je suis désolée, on peut faire des jeux de cartes tout seul aussi, on sera content des histoires.
Voilà. Oui, on peut jouer au Story Cube tout seul, et là, du coup, tu vois, il n'y a plus le fait de se retrouver avec d'autres. Il y a juste dire, je vais créer une histoire et ce sera par le médium du jeu.
Je pense que l'homme est un animal créatif, hein, de toute façon. Donc c'est normal que lorsqu'il a envie de rêver un petit peu, à bout d'un moment, bah, son instinct de création reprenne le dessus et qu'il dise « Oh, j'aime bien raconter, j'aime bien voir des histoires et si j'en racontais une, quoi.
» Bon, en tout cas, moi, j'entends plein de trucs que je trouve super intéressants. J'ai pas encore entendu la réponse qui me fait dire mais oui c'est ça évidemment ouais. Si vous pouvez en mettre dans les commentaires vous les auditeurs ça continuera à me faire avancer et je vous en remercierai grandement et s'il y en a un qui me donne la réponse ou j'espère bien que ce sera pas 42 je suis prêt à lui payer une glace, il y a aucun souci mais ouais je pense que c'est une question qui est intéressante.
À vos claviers, il y aura double ration de chocolat et chantilly.
Du narratisme à la vanille.
Mais oui, c'est comme ça que c'est bon.
Bon, en tout cas, moi, je voulais remercier aussi narrativiste.eu pour son travail de référencement des jeux. C'est vrai que ça permet d'avoir des jeux quand même assez originaux, de présenter des jeux qui ont des systèmes d'autorité partagés. Pour le jeu de rôle, c'est très bien. Pour le story game, c'est excellent. Et puis, bah, reposer cette question à Maître Sine un petit peu. Est-ce qu'il pourrait prendre la parole, laisser un commentaire, enfin, voilà, sur ce sujet. Est-ce qu'il considère qu'il y a des jeux de rôle narratifs et des jeux de rôle qui ne le sont pas, est-ce qu'il y a des jeux plus narratifs que d'autres, etc. Enfin, je sais pas.
Ça va troller dans les commentaires.
Ça, par contre, c'est une question qui. Parce que selon la réponse, ça va quand même changer grandement mon jugement. Enfin, en tout cas, ouais, ma vision du site, quoi. Bon, en tout cas, merci, Manuel, d'être venu me rentrer dedans, même si ça s'est finalement bien fini, cette affaire. Hein.
Je serais tenté de penser que quand on se rentre dedans, généralement, ça finit bien, mais...
Ouais, excellent. Excellent. Râlez moins et rentrez-vous plus
dedans.
C'est ça qui compte.
Utilisez des dés si vous voulez, voilà.
C'est ça que t'appelles du story game, bon salaud.
Ouais.
Allez, on va faire un petit story game ensemble tout de suite. Allez, à bientôt.
Ah bah bravo.
Salut.